is a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika.
Bonjour, 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 chers auditrices et auditeurs de Radio Galère. Eh bien oui, lettres et amis, nous sommes de retour ce mercredi 16 juillet 2025. On vous a envoyé des rediffusions, on a manqué des émissions, bref, on n'était pas là. Mais l'été continue, nous revenons pour une bonne partie de l'été. Marseille a été, vous en êtes rendu compte, complètement désertée là, pendant le week-end du 14 juillet. Nous étions là, nous préparions des émissions. Enfin, on est allé à la plage aussi quand même. Et aujourd'hui, donc, Dominique et Françoise au micro, Jules à la technique et le début de ce que j'appelle le programme d'été, un petit peu comme chaque année, l'invitation au voyage. Et avant de poursuivre l'émission en lecture, parlons un petit peu cinéma. La baleine, notre chère baleine, prendra des vacances, oui, mais à partir du 31 juillet. Alors, on a encore 2 semaines pour profiter de bons films. En particulier cette semaine, Amélie et la métaphysique des tubes, vous savez, l'adaptation animation du livre de Amélie Nothomb. Je ne l'ai pas vu, mais il paraît que c'est très très bien, alors je pense bien aller le voir. Et puis, beaucoup plus dramatique que j'ai vu, qui est génial, mais il faut un peu s'accrocher au siège. My Stolen Planet de Farhanaz Sharifi. Qui raconte plutôt sur le mode documentaire. L'histoire de l'Iran depuis la révolution islamique, histoire historique, mais aussi vécu personnel des individus enfermés dans ce nouvel État tout à fait tyrannique. Donc ça, c'était la baleine. Et le gyptis, lui, ça y est, il a fermé et il est remplacé, enfin, si on peut dire. Jeudi, l'équipe du Gyptis et de la Friche présente justement à la Friche, dans la Courgebin, la nuit du cinéma. Donc à partir de 22h, vous aurez 4 films projetés en plein air dans la cour de la Friche. J'ai retenu à 22h Peau d'âne, à 24h Ghost Dog et puis après encore 2 films. Voilà, donc de quoi aller boire un verre en regardant des images, c'est toujours sympa. Alors, revenons au livre, revenons au voyage et à l'invitation au voyage immobile. Vous vous souvenez peut-être de « Soi » de Alessandro Baricco que nous avions lu en mai. « Soi », cette espèce de récit bizarre, lent, charmant, simple, dépouillé, qui racontait donc les déplacements de ce commerçant en verre à soie, de Villeneuve, je ne sais plus, enfin bref, en Ardèche, là, à la limite de la culture des vers à soie, ou plutôt des arbres mûriers dans lesquels on cultive le vers à soie. On cultivait à cette époque-là. Donc, ce superbe récit de soie, S-O-I-E, de Alessandro Baricco, eh bien, j'ai eu envie d'en retrouver un petit peu les parfums et les longueurs dans un livre vraiment japonais cette fois, un livre de Soseki Natsume. C'est un auteur japonais de la fin du 19e et du début du 20e et il est connu en littérature sous son prénom de Soseki. Donc vous trouverez des livres de Soseki qui sont tous un peu des livres pour rêver, pour voyager, pour flâner, pour prendre son temps. Donc, de vrais livres d'été, mais loin d'être idiots, évidemment. Alors, Soseki, à une époque où le Japon s'ouvrait à peine à l'Occident, il était déjà beaucoup tourné vers l'Occident. Il a vécu en Grande-Bretagne, il y a enseigné justement la littérature japonaise. Et ses écrits sont de véritables voyages dans le Japon de l'époque, mais avec cette légèreté et cette délicatesse qu'on avait déjà trouvée chez Alessandro Baricco. Donc, tant qu'à faire, dans l'exotisme et dans l'invitation au voyage, je vous propose un récit de Soseki qui s'appelle « Oreiller d'herbe ». Alors, « oreiller d'herbe » en japonais, c'est le symbole justement du voyage poétique. Et ce récit s'appelle « Oreiller d'herbe » ou « Le voyage poétique ». C'est donc un récit de nouveau un peu lent et poétique. Il ne se passe pas grand-chose, mais tout de même, c'est un récit de la promenade en montagne et de l'arrêt dans un certain nombre d'étapes d'un peintre qui cherche l'inspiration et qui, semble-t-il, ne la trouve pas vraiment. Soseki a dit de ce récit que c'était un roman haïku. Alors, vous vous souvenez sûrement que les haïkus, ce sont ces poèmes japonais très brefs, enfin, très courts, très surprenants et un peu, je ne sais pas comment on dit, difficiles à saisir du premier coup, puisque ce sont des genres de notation comme ça sur l'instant du poète ou enfin de l'auteur de l'haïku. Donc, l'idée du roman haïku, c'est un peu la même chose. C'est... le fait que l'auteur propose un certain nombre de notations comme ça au fil de la marche du peintre. Et ce peintre qui manque d'inspiration, finalement, au lieu de peindre, il écrit. Il écrit quelquefois, justement, des haïkus qu'il nous donne à lire et quelquefois, simplement, des choses, je suppose qu'il écrit pour lui dans le récit puisque nous n'en avons pas la communication. Mais enfin, c'est pas grave. Alors, avant d'entamer le récit, je vous lis un tout petit peu la présentation de l'éditeur qui dit que ce récit est extrêmement original par sa structure, son écriture et son projet même. Ce récit, donc écrit en 1906, peut être lu à la fois comme un essai sur la sensibilité japonaise et comme une œuvre qui marque le démarrage de la modernité au Japon. Et le titre du roman, donc, est une expression poétique couramment utilisée dans la rhétorique japonaise, précisément pour se référer au voyage. Et qu'est-ce que c'est que ce récit ? Eh bien, c'est, comme on vous l'a dit, l'histoire d'un peintre qui se retire dans les montagnes, au départ pour peindre et pour se reposer, mais qui, sans arrêt, fait le point sur son art, qui se demande ce que c'est que la sensibilité artistique, la création, la sensation même, comment on peut précisément transmettre les sensations. Et puisque Soseki connaît aussi l'Occident, il se demande comment se distingue l'art japonais et l'art occidental. Et le peintre en passant, c'est quand même ça qui nous intéresse, il observe la nature, il est le témoin silencieux d'événements au fil de son voyage. Et on a un peu l'impression toujours de points d'interrogation qui jalonnent son parcours. Avec les légendes des lieux, la description de la nature, les commérages, les rencontres, tout cela s'enchevêtre dans une espèce donc, de récit poétique qui ne se prend pas du tout au sérieux. Et qui nous livre des petites notations un peu impressionnistes, c'est l'époque, au fil des pages. Alors, on va commencer comme ça. Je gravissais un sentier de montagne en me disant « À user de son intelligence, on ne risque guère d'arrondir les angles. À naviguer sur les eaux de la sensibilité, on s'expose à se laisser emporter. À imposer sa volonté, on finit par se sentir à l'étroit dans sa personnalité. Bref, il n'est pas commode de vivre sur la terre des hommes. Le monde humain n'a été créé ni par les dieux, ni par les démons, mais bien par les hommes. Après tout, ce sont des personnes ordinaires qui vivent là, sur terre, ce sont nos voisins immédiats. S'il est difficile de vivre dans ce monde humain que des hommes ordinaires ont créé, il ne devrait pas subsister de pays où s'installer, de pays où vivre tranquillement. Alors il ne reste plus qu'à se rendre ailleurs, ou du moins à chercher un ailleurs, un pays d'hommes, mais sans hommes. C'est ce que je fais. C'est peut-être plus dur de vivre dans un pays sans hommes que le monde des hommes. Enfin, nous verrons bien. Lorsque le mal de vivre s'accroît, l'envie vous prend de vous installer dans un endroit paisible. Dès que vous avez compris qu'il est partout difficile de vivre, alors restent la poésie et la peinture. Rendons-nous donc maintenant dans ces contrées paisibles où nous allons pouvoir rêver, penser, disserter et peindre. Ce qui débarrasse de tout ennui ce monde où il est difficile de vivre, disions-nous, et projette sous nos yeux un monde de grâce, c'est la poésie, c'est l'art, c'est la peinture, ou encore, pour d'autres, la musique ou la sculpture. Pour être exact, il ne s'agit pas de projeter le monde, il suffit d'y poser son regard directement. C'est là que naît la poésie et c'est là que les chants s'élèvent. Même si l'idée n'est pas couchée sur le papier, même si le son du cristal résonne dans le cœur avant de résonner à l'extérieur, même si la peinture n'est pas encore étalée sur la toile, l'éclat de l'art, l'éclat des couleurs se reflète dans le regard intérieur de l'artiste. Il suffit de contempler le monde où l'on vit et d'en exprimer la pureté, la clarté, comme par un appareil photographique de l'esprit. Photographier le monde d'ici-bas, mais pas dans sa futilité chaotique, simplement dans sa poésie. C'est pourquoi on peut être un poète anonyme qui n'a pas écrit un seul vers, un peintre obscur qui n'a pas peint une seule toile, un sculpteur qui n'a pas fait encore de création. Nous serons plus heureux que des princes, plus heureux que toutes les célébrités du monde trivial, car nous serons les premiers à savoir observer la vie, à nous abstraire de toute préoccupation, à être en mesure d'entrer dans le monde de la pureté, de construire un univers unique et de balayer les contraintes de l'égoïsme et la sévérité du monde. Alors ça, c'est la déclaration préliminaire de l'auteur. Et cette déclaration préliminaire, c'est ce qui préfigure justement son départ et son voyage. Ayant vécu 20 ans en ce monde, je compris qu'il valait la peine d'y vivre. Mais à 25 ans, j'ai eu la révélation que la lumière et les ténèbres étaient deux faces d'une même réalité et que partout où naît la lumière, l'ombre tombe aussi autour de nous. Aujourd'hui, à 30 ans, voici ce que je pense. Plus profonde est la joie, plus profonde est la mélancolie. Plus grand est le plaisir, plus grande est la souffrance. On ne peut les séparer. On ne survit pas si on essaye de les séparer. Alors, je vais donner la parole à Françoise pour qu'elle commence le récit du voyage, le récit de la promenade. Nous saisissons donc notre auteur, peintre et poète, dans la montagne. Il chemine tranquillement.
J'entendis soudain à mes pieds des pépiments d'alouettes. Mais j'avais beau observer la vallée, je n'apercevais nulle ombre, nulle forme qui pût m'indiquer l'origine de ce chant. Il n'y avait que ce cri qui résonnait clairement. C'était un chant vif, précipité, incessant. On aurait dit qu'à un kilomètre à la ronde, l'air était harcelé de puces et ne tenait plus en place. Pas un instant de répit dans le pépiment. Il faut croire que ces oiseaux ne seraient pas satisfaits si, en cette paisible journée de printemps, ils ne s'épuisaient en trilles et vocalises. Ils s'élèvent à l'infini, dans l'espace et le temps. Ils vont certainement mourir dans les nues. Montés dans les hauteurs extrêmes, ils se laisseront emporter par des nuages flottants et durant cette dérive, ils perdront leur forme et ne survivra peut-être dans le ciel que leur chant. Le printemps nous endort. Les chats oublient d'attraper les souris et les hommes oublient leurs dettes. On oublie alors le lieu de son âme et notre raison s'égare. Ce n'est qu'à la vue des fleurs de colza qu'on s'éveille. Quand on entend le chant de l'alouette, on reconnaît l'existence de son âme. Ce n'est pas avec son seul gosier que l'alouette chante, mais avec toute son âme. Parmi toutes les activités de l'âme, qui se transmue en chant, nul n'a cette vigueur-là. Quel doux spectacle, me suis-je dit, Et la douceur de ce spectacle, c'est la poésie même. La mélancolie est la compagne du poète. Mais s'il est d'humeur à écouter l'alouette, il n'y a là nulle trace de souffrance. Or, à la vue du colza, il ne ressent que du bonheur et son cœur bat. Il en est de même pour les dents de lion et les cerisiers. On ne sait depuis quand les cerisiers sont devenus invisibles. Quand je viens admirer dans les montagnes les paysages naturels, tout est plaisant à voir et à écouter. Pourquoi cette absence de souffrance ? Parce que je contemple ce paysage comme un tableau et que je le lis comme un poème. Tant qu'on le considère comme un tableau ou un poème, on ne sera jamais tenté de s'approprier le terrain, ni de l'aménager, ni de le faire fortune en y installant un chemin de fer. Ce paysage, qui ne me remplit pas l'estomac et ne grossit pas mon pécule, ne me réjouit le cœur qu'en tant que paysage, et c'est ce qui explique qu'il ne cause ni souffrance ni souci. Voilà ce qui rend précieuse la force de la nature. C'est elle qui instantanément modèle, purifie notre cœur et lui permet de pénétrer dans un univers strictement poétique. Celui qui trouve intéressant de regarder la scène ou de lire le roman fait abstraction de ses propres tracas. Cet homme-là est poète tant qu'il contemple et lit. Cependant, dans des pièces ou des romans ordinaires, on n'échappe pas à la passion. On souffre, on s'irrite, on enrage et on pleure. Le spectateur finit par s'identifier à ce qu'il voit. Il souffre, s'irrite et pleure. L'avantage consiste peut-être dans le fait que ses propres intérêts ne sont pas sollicités, mais ses autres émotions doivent s'activer plus que d'habitude. La poésie à laquelle j'aspire n'est pas celle qui exhorte les passions terrestres, mais plutôt celle qui m'affranchit des préoccupations triviales et me donne l'illusion de quitter, ne fût-ce que pour un instant, ce monde de poussière. Même parmi les chefs-d'œuvre, je ne connais pas de pièce de théâtre qui soit détachée de toute passion. Elle fait, à tout propos, appel à la compassion, à l'amour, à la justice, à la liberté, autant de valeurs disponibles à la foire de ce bas monde. Si poète qu'il soit, le poète a les pieds sur terre et n'omet jamais de compter ses sous en poche. Quoi d'étonnant à ce que Shelley ait soupiré au chant de l'alouette.
On tourne les pages.
Alors que ma décision avait été prise en ce sens, le ciel se fit menaçant.
Prendre une décision en ce sens, c'est simplement qu'il repart. Il écoutait les chants des alouettes. Il était perdu dans les chants des alouettes et les nuages se sont accumulés autour de lui. Et donc, il vient de décider que, bah oui, il fallait qu'il poursuive sa route rapidement parce qu'il allait se mettre à pleuvoir.
À peine avais-je remarqué des nuages indécis suspendus au-dessus de ma tête que déjà le ciel noircissait et qu'un océan de nuages déferlait de tous côtés, la pluie printanière commençant à tomber doucement. J'avais dépassé depuis longtemps le champ de colza et je m'avançais à présent au cœur des montagnes. Mais comme la pluie était fine au point de se confondre avec de la brume, j'avais du mal à évaluer les distances. De temps à autre, le vent soufflait et lorsqu'il dégageait des nuages les plus élevés, j'entrevoyais sur la droite la crête grise des montagnes. Il semble que de l'autre côté de la vallée s'étende une chaîne de montagnes. On est tout de suite à gauche, au pied des montagnes. Des pins dessinent vaguement leurs cimes derrière l'épais rideau de pluie. Dès qu'ils sont apparus, ils se perdent aussitôt. Est-ce le mouvement de la pluie, des arbres, du rêve, étrange atmosphère ? La route qui s'est élargie et aplanie ne réclame pas un trop grand effort, mais comme je ne me suis pas armée contre la pluie, je hâte le pas. Des gouttes commencent à dégouliner du rebord de mon chapeau. Les gouttes de crachin s'allongeaient et s'épaississaient, et je parvenais à voir comment chaque goutte tourbillonnait dans le vent. Ma veste est depuis longtemps entièrement mouillée, et l'eau qui déjà a pénétré mes sous-vêtements a pris la tiédeur de mon corps. C'est une sensation désagréable. J'ajuste mon chapeau et accélère ma foulée. Il suffirait de considérer ce mois trempé jusqu'aux os, qui affronte la grisaille infinie piquée de pointes d'argent comme une silhouette qui ne serait pas moi, pour faire un poème qu'on lirait comme un haïku. C'est lorsque j'aurai oublié le moi présent et que j'aurai un regard purement objectif qu'enfin devenue figure picturale, j'entrerai en parfaite harmonie avec le paysage naturel. À l'instant où je me soucierai de la pluie et me préoccuperai de la fatigue de mes jambes, je cesserai d'être le personnage d'un poème ou la figure d'un tableau. Je ne serai plus qu'un citadin mal dégrossi. Mes yeux ne verront plus le déplacement des nuées et des brouillards. Mon cœur ne sera plus sensible à la chute des pétales ni au chant des oiseaux. Et puis, je comprendrai moins bien la beauté de ce moi qui s'aventure tout seul dans les montagnes du printemps avec mélancolie.
Voilà, donc c'est la fin du premier chapitre. Vous avez vu, on a déjà pratiquement l'essence de l'ouvrage, puisqu'il y a un récit, oui, il y a un récit. Cet homme, manifestement, chemine dans la montagne et en plus, il se fait mouiller par la pluie qui arrive. Mais tout en cheminant, il se livre à des réflexions sur l'art, sur les hommes, sur la société, sur justement ce qu'on peut vivre par procuration dans les œuvres d'art. Et il nous souligne bien sa préférence pour la poésie, puisque la poésie... Alors, il y a une expression que, évidemment, j'ai oubliée, mais qui est quand même splendide, qui nous dit, en gros, que la poésie, c'est ce qui permet d'échapper aux réalités du monde. Alors, la poésie, en ce qui le concerne, l'a tellement bien fait échapper aux réalités du monde qu'il a oublié de regarder le ciel et qu'il n'a pas pris conscience des nuages qui s'amoncelaient. Et il s'est fait bien mouiller par l'averse. Comme il est dans une montagne un peu perdue, il est loin de tout et donc il est effectivement un peu, je ne sais pas qu'on pourra dire, désemparé face à la pluie. Et oui, il est mouillé et quand même, il arrive aux portes d'une maison ou à la porte d'une maison qui pourrait bien être une auberge. « Ohé !» criai-je sans obtenir de réponse. « Ohé !» fis-je une nouvelle fois. Un coq et une poule étaient assoupis sur un mortier, les plumes en boule dans un coin sur le sol de terre battue. Ils se mirent à caqueter sur le fourneau de terre, délavé par la pluie qui venait de tomber, était placée une bouilloire toute noire, en argile sans doute, et le feu était allumé en dessous, c'est bon signe. Alors, ohé ! Comme aucune réponse ne vient, j'entre sans attendre, je m'y autorise. Je m'assieds sur un tabouret, le coq et la poule secouent leurs ailes et sautent à bas du mortier. Ils montent là-bas, un peu plus loin, sur un tatami. Si les portes de papier n'avaient pas été tirées, ils auraient même pu filer jusqu'au fond de la maison. Le coq lance de sa voix grave « Cocorico !» La poule répond de sa voix pointue « Cat, 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 cadec !» On dirait qu'ils m'ont pris pour un renard ou pour un chien. Ils sont tout inquiets. Sur un coin du tabouret, quelques barres d'encens en forme de spirale brûlent sereinement dans un gros cendrier, totalement insensible à l'avancée du jour. La pluie peu à peu s'est calmée. Et j'entends enfin des pas qui viennent du fond et la porte, couverte de suie, se déplace lentement. Une vieille femme apparaît. Je pensais bien que quelqu'un viendrait puisque le feu était allumé sous la bouilloire. Des pièces de monnaie étaient disséminées autour de boîtes de confiserie. En fait, plus qu'une auberge, c'était une boutique. De l'encens fumait nonchalamment, je l'ai dit, et j'étais certain que quelqu'un se présenterait. Mais à la différence de ce qui se passe en ville, le magasin ici avait été laissé sans surveillance. Tranquillité, oui. Et moi, je m'étais assis tranquillement sans me formaliser de l'absence de réponse. C'est vraiment merveilleux, la campagne, la montagne. Tout cela présente un réel intérêt parce que finalement, c'est une marque d'impassibilité. Et le visage de la vieille me plaît aussi. Il y a 2 ou 3 ans, j'ai vu Takusago sur la scène de théâtre de No de l'école de Osho. Et à ce moment-là, j'ai pensé qu'il y avait vraiment dans cette pièce de très beaux tableaux vivants. Un moment, un vieillard, un balai à la main, traversait la scène. Il faisait 5 ou 6 pas et se retournait délicatement vers une vieille femme qui, elle aussi, venait d'entrer en scène. Je conserve encore l'image de cette rencontre. Eh bien, vu de ma place, le visage de cette vieille femme, de cette vieille commerçante, se trouvait, pour ainsi dire, en face de moi, de la même façon qu'au théâtre il y a 2 ou 3 ans. J'ai trouvé ça très beau. Ça s'était imprimé dans mon cœur et j'ai retrouvé cette image dans mon cœur. Le visage de la vieille propriétaire de la boutique ou de maison de thé ressemblait à s'y méprendre à la photographie prise par mon cœur il y a quelques années. « Je me suis permis d'entrer, grand-mère. »« Oui, oui, j'avais entendu que vous étiez là. »« Il a beaucoup plu. »« Oh, quel sale temps, c'est ennuyeux. » « Oh, mais dites donc, vous êtes trempé jusqu'aux os. Venez donc, venez vous sécher, puisque le feu est allumé, approchez-vous. »« Oh non, je ne vais pas vous ennuyer, je sécherai simplement en me tournant le dos au fourneau. Je vais tâcher de ne pas me refroidir. »« Bon, alors, je rallume le feu un peu plus fort et je vous apporte le thé tout de suite. » Elle chassa le coq et la poule. Le couple de volatiles s'enfuit en caquetant. Ils écrasaient en passant quelques boîtes qui se trouvaient là sans y prendre garde. Ils s'échappaient vers la rue. « Ah, voici pour vous, dit la vieille, en me présentant un bol de thé sur un joli plateau incurvé. À travers la couleur brunâtre du thé, on apercevait au fond du bol 3 fleurs de prunier, bien dessinées d'un seul coup de pinceau. « Un gâteau ? » proposa-t-elle. Et elle m'offrit, en effet, quelques gâteaux choisis parmi les boîtes qui traînaient là, mais qui étaient bien frais. Elle resserra son kimono et elle dit « Ben oui, c'est bien agréable, ce calme. C'est ça que vous êtes venu chercher ?»« Oui, oui, c'est cela. Je cherchais un coin perdu dans les montagnes. Il semble que j'ai trouvé. » »« Et est-ce qu'on y entend les rossignols chanter ?» « Mais oui, bien sûr, presque tous les jours. Les alouettes le jour, les rossignols la nuit. Et les rossignols ici chantent même jour et nuit quand c'est l'été. »« Ah, j'aimerais bien entendre les rossignols. J'ai entendu les alouettes sur le chemin, mais les rossignols me feraient vraiment plaisir. »« Allons, allons, chauffez-vous, vous devez avoir froid. »« Ah, c'est vraiment plaisant ce feu, je me sens renaître. » »« Et puis le ciel s'est dégagé. » Je vais bientôt pouvoir reprendre mon chemin. Je contemplais le rocher du Tengu et puis je me tournais vers la vieille femme avant de poser alternativement mon regard dans les 2 directions. Les 2 seules images qui s'offraient à moi, c'étaient en effet des peintures de vieilles personnes ou de montagnes. Des peintures traditionnelles qui nous montraient bien le rapprochement des hommes et de la nature. C'est comme au théâtre, comme cette fois où j'avais assisté à cette représentation exceptionnelle au théâtre et où j'avais surpris dans les acteurs une telle douceur d'expression que je retrouvais chez cette vieille femme, comme un masque sculpté par un grand artiste. Je n'ai pas retenu tous les noms, mais tout de même, c'était merveilleux. Et là, maintenant, dans ce village dont je ne retiendrai pas davantage le nom, cette vision serait encore, pour longtemps, pour moi, merveilleuse. Cette vision de la vieille en gilet, assise bien droite, devant son fourneau, me servant du thé dans un joli bol décoré. « Vous avez l'air en forme, grand-mère, dis-je. »« Oh, je n'ai pas à me plaindre. Je couds, je file du chanvre, je moue de la farine, je fais de la pâte pour les gâteaux. » J'avais envie de la voir se mettre au mortier, mais manifestement ce n'était pas l'heure. « Je cherche le chemin de Nakoy. J'ai encore 1 lieue à faire environ ?»« Oui, oui, c'est ça, 1 lieue à peu près 1 bonne heure de marche. Vous allez à 1 cure thermale, monsieur ?»« Bah, peut-être, s'il n'y a pas trop de monde, mais dans tous les cas, je voudrais rester un moment à Nakoy. Cela dépendra de mon humeur. Je verrai bien. » J'espère que je trouverai à me loger. Oh, vous savez, à cette saison, il n'y a pas grand monde. Il suffit de demander, il ne faut pas hésiter. Mais il y a bien des auberges. Oui, oui, il y a des auberges. Il y en a une qui est juste à l'entrée du village. Elle appartient à Monsieur Chioda. Et même si l'établissement thermal n'est pas ouvert, vous pourrez trouver une chambre dans cette maison. C'est la première fois que vous venez dans la région ? Non, non, mais j'étais venue il y a vraiment longtemps. Notre conversation s'interrompit aussi naturellement qu'elle avait commencé. J'ouvris mon carnet d'esquisses et je dessinais tranquillement le coq et la poule. Ils étaient revenus, et dans le silence revenu, lui aussi, j'entendis tinter les grelots d'un cheval. Ce tintement, lui seul, prenait un rythme autour de ma tête et formait une cadence. J'avais l'impression de m'être endormie, d'émerger d'un rêve, d'être à la fois dans le rêve et la réalité. Je cessai de dessiner le coq et la poule et j'écrivis « Vent de printemps aux oreilles d'Isène, grelot de cheval ». Voilà, c'est le premier haïku du texte et on en trouvera bien d'autres. Mais avant de continuer, on va écouter justement de la musique traditionnelle japonaise. Vous allez écouter le son du koto. Le koto, c'est un genre de luth que les femmes jouent en ajoutant des ongles, enfin des petits morceaux de métal au bout de leurs doigts. Et vous allez voir, enfin vous connaissez sûrement, c'est très particulier. Et si vous avez la possibilité, allez voir aussi sur YouTube les images, les vidéos de joueuses de koto, c'est en général très beau. Donc merci Jules pour notre air de koto. Koto joué par Fumie Ihara Et bah oui, elle joue sur un très beau luth noir sur lequel les cordes sont fixées par des espèces de petits pointeaux blancs. Elle porte un kimono traditionnel, bien sûr. Et elle joue devant un panneau peint, disons, un panneau de décor, qui représente quelque part un peu ce dont on pourrait rêver à la lecture de notre Oreiller d'herbe de Soseki, parce que c'est une représentation très figurée, enfin très stylisée, je dirais, peut-être de montagnes, de nuages, de nuées, de tourbillons, enfin, de choses qui sont à la fois calmes et menaçantes et qui reprennent bien donc l'idée de la montagne et de la pluie qu'a subi notre auteur. Alors, on va reprendre son aventure. On l'a laissé avec un haïku qui était « Vent de printemps aux oreilles d'Isène, grelot de cheval ». Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Pas plus que ça ne dit, finalement. Sauf que Isène, c'est en fait un écrivain des temps passés, du XVIIIe siècle, et qu'en même temps, en japonais, ça veut dire comme toujours, comme avant. Donc finalement, vent de printemps, comme toujours, et grelot de cheval, bah, c'est la célébration, dans l'instant, bien sûr, puisque c'est un haïku, de choses éternelles. Et notre auteur, Soseki, c'est un peu ce qu'il fait. Il célèbre les montagnes éternelles, les villages éternels, la relation de ces femmes simples qui tiennent leur boutique pour les voyageurs de passage. Et ce voyageur, justement, dont nous ne connaissons pas le nom, c'est peut-être Soseki, c'est peut-être un personnage mis en place par lui. Ce voyageur, eh bien, il nous dit « Depuis le début de mon escalade, c'est vrai, j'avais croisé une demi-douzaine de chevaux et ils étaient tous munis de harnais et de grelots qui tintaient. En fait, je n'y avais pas prêté attention, mais là, bien sûr, puisque j'étais assis, tranquillement, dans une position calme où je n'avais rien d'autre à faire, je ne marchais plus sur le sentier, j'étais là et j'entendais cet écho joyeux des grelots » qui résonnait sur le fond de ma nostalgie et de telle manière que c'était comme la présence d'une voix dans une peinture calme et lointaine. Vous voyez, c'est exactement ça, c'est un peu comme la peinture de fond derrière notre joueuse de koto. Et du coup, il nous donne un autre haïku, « Chant du postillon qui franchit le col de Suzuka, pluie de printemps. » Chant du postillon, sans teindre les cheveux blancs, que de printemps passé. Donc, c'est à la fois les grelots, du cheval, et puis le temps qui passe, la vieillesse qui vient, la nature qui entoure l'auteur et la proximité des hommes dans une nature finalement bienveillante. Je rouvre mon carnet d'esquisses. Ce paysage peut devenir un tableau. Il peut devenir aussi un poème. Et je me représente intérieurement une mariée qui se trouve dans la montagne et qui marche au hasard. Le temps des fleurs, une fois passé, la mariée à cheval. Curieusement, en effet, cette image se présentait devant moi avec précision d'une femme sur un cheval dans sa robe et sa coiffure traditionnelle, sous les cerisiers. Mais son visage m'échappait. Pendant un moment, j'ai hésité entre plusieurs visages, un peu comme celui de l'Ophélie peinte par Millet, qui est éternelle. Ophélie, elle flotte sur les eaux et là, ma mariée, sur son cheval, elle flotte sur un fond de fleurs de cerisier. Et oui, la robe, la coiffure, le cheval, le cerisier, tout cela part en fumée puisque c'est un décor mental, une image qui m'est venue à l'esprit, comme celle d'Ophélie qui flotte sur les eaux, les mains jointes, et qui est restée imprimée dans le cœur de tous ceux qui l'ont vue au musée à Londres. Il faut dissiper la brume, il faut revenir à la réalité. j'ai la bizarre impression d'être une comète qui traverse le ciel et dont la queue traîne toujours en traversant le ciel. Alors, dis-je à la vieille dame, le chemin est direct jusqu'à Nakhoï, je peux y aller tranquillement. Oui, oui, pas de problème. Et si vous voulez, après la pagode de la tombe de la belle de Nagara, vous tournerez à droite, cela vous fera un raccourci d'au moins 500 à 600 mètres. La route n'est pas bonne, mais pour un jeune homme comme vous, c'est plus commode, c'est plus court. Ah, c'est gentil votre pièce, mais c'est trop pour une tasse de thé. Bon, enfin, merci. Faites bien attention à vous. Bonne route. Je suis repartie dans la montagne après la pluie et j'ai fini par arriver à Nakhoï, bien sûr. À Nakhoï, il était près de 8 heures quand je suis arrivée à l'auberge.
Je me sentais tout drôle hier soir. Il était 8 heures quand je suis arrivée à l'auberge, si bien que non seulement la disposition générale de la maison et du jardin, mais aussi l'orientation m'échappèrent. On me fit passer dans une suite de couloirs avant de me conduire enfin dans une petite pièce. L'impression était tout à fait différente par rapport à ma première visite. Après avoir dîné, j'ai pris un bain et à mon retour dans la chambre, je buvais du thé lorsque la servante s'est présentée me proposant de faire mon lit. Ce qui me semble curieux, c'est qu'une seule servante soit préposée à toutes ses fonctions. M'accueillir à mon arrivée dans l'auberge, servir mon dîner, me conduire jusqu'à la salle de bain, faire mon lit. Et tout cela sans souffler mot, ni paraître trop paysanne. Guidée dans un dédale de couloirs et de petits escaliers, jusqu'à ma chambre par cette servante serrée dans une ceinture rouge qu'elle avait discrètement douée, et nous éclairant avec un flambeau à l'ancienne, et entraînée ensuite par la même femme portant la même ceinture, et brandissant le même flambeau jusqu'au bain, à travers ce réseau où l'on ne distinguait plus les couloirs des escaliers, j'avais absolument la sensation de déambuler sur un canevas.
Sur un canevas ou dans un conte. Finalement, c'est bien l'idée, c'est, si vous voulez, la dame à la licorne à la japonaise, ou bien, je ne sais pas, la belle et la bête. Enfin, on est dans un univers qui est à la fois un univers de rêve et de réalité.
Quand elle m'avait servi le repas, elle m'avait dit « On n'a pas de clients en cette saison. Et comme on n'a pas fait de ménage dans les autres chambres, il faudra que vous vous contentiez de cette pièce qui nous sert habituellement. » Au moment de faire le lit, elle prononça quelques paroles chaleureuses. Reposez-vous bien, avant de se retirer, mais ses pas se sont éloignés progressivement dans le labyrinthe de couloirs, m'abandonnant dans un silence glacial, soudain angoissé par l'absence de toute humanité.
Et c'est assez drôle finalement, hein. Il y a une coexistence d'humanité et d'absence d'humanité. Et cet homme qui voyage, qui devrait quand même être prêt à rencontrer éventuellement l'absence d'humanité, ça le choque un peu d'être dans un univers déshumanisé, justement. Alors que, si l'auberge est quasi fermée, c'est normal qu'il n'y ait plus qu'une personne pour faire le service.
Depuis ma naissance, je n'ai fait qu'une seule fois cette expérience. Il m'est arrivé autrefois de dépasser Tateyama, dans la province d'Awa, et de marcher le long de la plage de Kazusa jusqu'à Shoshi. Je m'étais alors arrêtée dans un endroit pour la nuit. Je ne peux pas faire autrement que de dire un endroit. J'ai complètement oublié le nom du lieu et celui de l'auberge. Tout d'abord, la question est de savoir si j'étais bien descendue dans une auberge. C'était une grande maison au toit élevé, habitée par 2 femmes. Lorsque je leur ai demandé si je pouvais passer la nuit ici, la plus vieille m'a répondu oui et la plus jeune m'a dit d'entrer. Elle m'a guidée à travers des pièces spacieuses et délabrées jusqu'au fond de la maison et m'a fait monter à l'entresol. Je gravis 3 marches pour gagner ma chambre à partir du couloir, mais soudain, une touffe de bambou caressée par la brise du soir m'effleura le corps de l'épaule à la tête, du haut de l'auvent, et me glaça les sangs. Les planches de la véranda étaient pourries. J'annonçais à la jeune fille que l'année suivante, les pousses de bambou finiraient par traverser les planches et que la chambre en serait pleine. Elle eut un petit rire et repartit sans répondre. Ce soir-là, les bambous bruissaient à mon chevet, m'empêchant de dormir. J'ouvris la porte coulissante devant le jardin, entièrement envahi par les herbes, et au clair de la lune d'été. Mon regard le parcourut, découvrant qu'il n'était entouré ni de haies ni de ronces, et qu'il s'étendait comme une vaste prairie. Au-delà, c'était tout de suite l'océan dont les vagues déferlaient avec fracas, menaçant le monde des humains.
Oui, c'est assez drôle, la juxtaposition de ces deux expériences. Il y en a une qui se passe dans la montagne, l'autre qui se passe au bord de la mer. Mais dans les deux cas, on a l'impression d'un univers de rêve ou d'un univers de conte, disions-nous, qui se juxtapose avec la réalité. Et c'est vraiment ce qu'il y a de typique dans ces descriptions de Soseki, c'est qu'il y a des moments où on ne sait pas si on est dans le rêve ou dans la réalité, il y a des moments où on ne sait pas si on est dans le souvenir ou dans le présent. Et on a toujours cette espèce de flottement. Moi, je trouve que c'est assez caractéristique et représentatif justement de peinture japonaise où l'univers est symbolisé par quelques formes de montagnes, quelques formes de plantes. Et puis, à part ça, finalement, on imagine ce qu'on veut et on est un peu dans la brume ou même dans le brouillard. Allons-y.
Je ne fermais pas l'œil jusqu'à l'aube et, prenant mon mal en patience sous une moustiquaire douteuse, je me suis consolée en me persuadant qu'on se serait dit dans un vieux conte. J'ai souvent voyagé depuis, mais jamais je n'ai éprouvé une telle impression jusqu'à hier soir où je suis venue dormir ici, à Nakoi. J'étais couchée sur le dos et j'ouvris par hasard les yeux lorsque j'aperçus une calligraphie dans un cadre rouge accrochée à la grille protectrice du linteau. Sans quitter ma posture allongée, je parvenais à lire clairement « L'ombre d'un bambou nettoie l'escalier, mais la poussière ne bouge pas. »
Là aussi, c'est un bel haïku.
Je me tourne sur le côté, je découvre un tableau de Jakushu représentant une grue accrochée dans l'alcôve décorative. Mon œil professionnel m'avertit dès mon entrée que c'est une œuvre de qualité. En général, les œuvres de Jakushu sont richement colorées, mais la grue ici représentée est croquée d'un seul trait insoucieux du monde, dressée sur une seule patte avec sveltesse, son buste en forme d'œuf, délicatement posé, indiquant la particularité de l'intention de l'artiste, se penchant pour l'insouciance et manifesté jusqu'à la pointe de son bec. À côté de l'alcôve se trouve une série d'étagères en quinconce, puis des rayonnages simples, je ne sais pas ce qui y est rangé. Peu à peu, le sommeil me gagne, dans un rêve. La belle de Nagara m'apparaît dans son kimono de cérémonie, à cheval. C'est peut-être une illusion, mais j'ai l'impression qu'on fredonne une chanson. Ignorant si c'est une chanson sortie de mon rêve qui a pénétré dans ce monde-ci ou si c'est une voix d'ici-bas qui s'est distraitement égarée dans le pays des rêves lointains, je prête l'oreille. Il est en tout cas certain que quelqu'un est en train de chanter. Ce doit être un mince filet de voix feutrée, mais elle maintient une fragile pulsation dans la nuit de printemps qui s'endort. Ce qui est étrange, c'est que non seulement la mélodie, mais les paroles aussi sont distinctes, alors que je ne devrais pas les saisir, car elles ne sont pas prononcées à mon chevet. Il me semble que ce sont les mêmes mots toujours répétés, ceux du poème de la belle de Nagara. L'approche de l'automne apporte la rosée sur les frêles épis et mon cœur croit mourir.
Ah oui, alors là encore, on ne sait pas si on est dans le rêve ou dans la réalité. Finalement, y a-t-il vraiment quelqu'un qui chante ou bien est-ce le rêve qui a pris le dessus? On va peut-être continuer un petit peu pour avancer dans la lecture de notre oreiller d'herbe de Soseki. Mais justement, la sensation de mélange entre le rêve et la réalité qu'il ressent lui donne encore une fois l'idée d'écrire des haïkus. Donc, pendant qu'il dort, ou presque, il voit la porte coulissante de sa chambre s'ouvrir et il a l'impression est-ce le rêve, est-ce la réalité, que quelqu'un vient chercher un tissu sur les étagères qu'il avait remarqué tout à l'heure. Et au fond, il n'est sûr de rien, il finit peut-être par se réveiller, il se dit que cette nuit aussi, dans son lit, il a vécu des incidents. Et en se réveillant, il écrit quelques haïkus. Alors, les haïkus, là encore, viennent-ils de son rêve, viennent-ils de la réalité? En tout cas, il dit « J'ouvre mon carnet d'esquisses, celui que j'avais posé à mon chevet, et j'écris ce à quoi j'ai pensé. L'ombre des fleurs n'est-elle pas un voile sur l'ombre de la femme ?» Puis je me dis qu'à ce train-là, je peux continuer. « Au printemps, ce soir, digne figure, daigne maintenant chanter. Nuit lunaire où apparaissent les esprits du pommier pourpre. Le chant intermittent erre à l'aventure dans le printemps sous la lune. Je suis heureux d'avoir noté ces petits essais de poésie, mais j'ai encore sommeil. Et le sommeil me gagne à nouveau à l'issue de mes essais poétiques. Dans le sommeil, finalement, on s'oublie totalement. Et au moment du réveil, si on n'a pas totalement oublié ses rêves, justement, on ne sait si on est dans le rêve ou dans le monde extérieur. Ainsi, deux domaines se confondent. Un monde fantasmatique et la réalité. Je suis trop nébuleux pour me dire que je suis éveillé ou trop vif pour me dire que je suis endormi. C'est un peu comme si on mélangeait les deux univers de la veille ou du sommeil dans un même pichet en y faisant tourner ardemment le pinceau de la poésie. On estompe la couleur de la nature jusqu'au seuil du rêve et on avance d'un cran dans l'univers tel qu'il existe vers le pays des brumes. À la force magique du démon du sommeil, on arrondit les angles du réel sur la surface ainsi amolie et on imprime une pulsation légère et lente. Tout comme la fumée qui rampe au sol sans pouvoir s'envoler, mon âme, en essayant de quitter ma coquille, ne parvient pas à s'en défaire totalement. Tentant de sortir, elle hésite, oui, elle tente de sortir, oui, et finalement, je ne peux plus la retenir. C'est la force de l'entité qu'on appelle l'âme, un souffle invisible qui, sans se disperser, était insinué dans mon corps et j'ai le sentiment tout à coup, oui, qu'il est là, que je ne peux l'abandonner et qu'il ne peut abandonner mon corps. C'est comme une force qui s'attache à moi. Quand j'erre dans le demi-sommeil, je suis là à la fois dans le rêve et la réalité. Dans la réalité, j'ai entendu la porte coulissante que l'on tirait doucement. Dans cette ouverture, j'ai vu quelqu'un, tel un spectre, c'était la silhouette d'une femme qui ne m'a pas surpris. Je l'ai contemplée, mais était-ce le spectre d'une femme ou la silhouette d'une femme? Était-elle derrière mes paupières fermées, devant mes yeux ouverts? Quelqu'un a-t-il pénétré doucement dans ma chambre? Quel ange a-t-il marché sur les flots, s'est-il avancé sur les nattes sans le moindre bruit? Puisque c'est un monde que j'entrevois à travers mes paupières ou derrière mes paupières, rien n'est sûr. Mais finalement, j'ai bien l'impression d'avoir vu une femme au teint clair, aux cheveux foncés et à la nuque allongée. Un peu comme si on avait placé une photographie qu'on l'avait regardée à la lueur d'une flamme. Ça se fait beaucoup en ce moment. Alors, la porte coulissante de l'entrée s'est refermée. Mon sommeil est redevenu plus dense. C'est sans doute l'état intermédiaire entre le rêve et la renaissance d'un homme sous forme de bœuf ou de cheval. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi à mi-chemin entre l'homme et le cheval. Je me suis éveillée au son du gloussement d'une femme qui était à l'extérieur de la maison. Et devant mes yeux, le rideau de la nuit s'était levé. Le monde dégageait une totale clarté. voyant comment le jour de printemps qui avait noirci les barres de bambou avait disparu peu à peu, je vois maintenant qu'il est revenu. Je me dis qu'il y a place pour le mystère dans le monde. Le mystère de retourner au paradis ou de revenir sur la terre en franchissant la rivière des songes. Je descends en robe de chambre jusqu'à la salle de bain. Je traîne quelques minutes dans cette salle de bain. Je n'ai pas vraiment le courage de m'essuyer. Je sors à moitié mouillée et je croise la servante bien réelle, qui me dit « Bonjour, vous avez passé une bonne nuit ?» Elle a prononcé ces mots presque à l'instant où j'ouvrais la porte. Oui, elle m'a salué naturellement, comme si elle se trouvait naturellement en présence de quelqu'un qui était bien présent. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu pareille expression sur aucun visage. C'est à la fois la sérénité et l'animation. Eh oui, mouvement ou immobilité, c'est la grande question qui domine la destinée des peintres. Les qualificatifs de la beauté, depuis toujours, peuvent être rangés dans ces deux catégories, mouvement ou immobilité. Alors, quand je contemple l'expression de cette femme, de cette servante, à la fois calme et animée, j'hésite à trancher entre ces deux catégories-là. D'ailleurs, son visage les rassemble. La bouche, c'est l'immobilité, presque crispée en un trait horizontal. Ses yeux, c'est le mouvement. Ses yeux qui bougent comme pour saisir la moindre lumière, la moindre poussière. Et sa bouche et ses yeux, dans un visage très ovale, légèrement renflé, qui exprime le calme, de même que sur le front, oui, mais avec tout de même un détail de mouvement sur les tempes dégarnies et par les sourcils qui se rapprochent, qui sont comme un frétillement au centre du visage, comme si on avait déposé des feuilles de menthe dans un bol de thé. Son nez est aigu et son portrait est beau. Finalement, chaque trait séparé présente une particularité. Chaque partie me saute aux yeux de façon un petit peu désordonnée. Mais dans l'ensemble, il y a une vraie harmonie. Alors, immobilité ou mouvement? Je ne sais pas. Je choisirai plus tard. « On a fait le ménage dans votre chambre, » me dit-elle en riant avec un peu d'ironie. « Allez donc voir et à plus tard. » Elle fait volte-face et s'éloigne d'un pas léger dans le couloir. Elle est coiffée d'un chignon de tresse qui dégage son col blanc sous sa nuque. Et sa ceinture rouge doit être satinée du côté visible, mais mate de l'autre côté. Voilà, je vais vous laisser avec la servante, son sourire et son kimono et sa ceinture rouge. D'ailleurs, notre joueur de coteau, elle avait aussi une ceinture, enfin rouge-orangé, disons, vermillon. La semaine prochaine, je ne sais pas, la semaine prochaine, je suis là en tout cas, donc je vous emmènerai en voyage. J'espère que j'arriverai jusqu'à la friche et que je pourrai, à l'occasion de l'émission, vous emmener en voyage. À bientôt!
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika.